sur comment adorer le Seigneur, comment vraiment adorer le Seigneur. Pensez à un texte en particulier? Non, il n'y a pas un texte qui vous vient à l'esprit? Oui, alors Jean chapitre 4, on va ouvrir notre Bible. Merci Gérard. Jean chapitre 4, l'épisode de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Alors, c'est un texte extrêmement riche, extrêmement dense. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements dans ce texte. J'ai déjà parlé dessus il y a un an lorsqu'on a étudié l'évangile de Jean. Je l'avais abordé sous l'angle de la communication, comment Jésus restaure une femme brisée. Là, on va voir un enseignement sur une femme qui, finalement, en dehors de son caractère brisé, a des attentes et des interrogations. Le fond de son cœur aspire à quelque chose d'autre. C'est une samaritaine. Vous savez que les Samaritains, c'est un mélange un peu de l'ancien peuple d'Israël avec des populations assyriennes qui sont venues lors de la déportation en 722 avant Jésus-Christ du royaume du Nord. Donc là, on est en 33 après Jésus-Christ, Jésus est là. Donc ça fait 700 ans qu'il y a eu un brassage de population, il y a eu un peu de religiosité, un peu de souvenirs. Et cette femme samaritaine a quelques vagues notions de religiosité. Et elle va profiter de cette rencontre avec Jésus pour, au fond, approfondir cette question. Et on va lire à partir du verset 19. À partir du verset 19, donc il y a tout un dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Jésus est en train de briser toutes ses défenses et la femme se sent vulnérable. Alors d'un côté, elle se sent vulnérable parce que Jésus est en train de lire dans son cœur. Et elle a peur que Jésus lise trop dans son cœur. Et elle lui dit, je vois que tu es un prophète. Alors peut-être, elle est en train de détourner la conversation parce que Jésus vient de lui parler de ses cinq maris. Hein, et celui avec qui elle vit, il n'est plus son mari. Peut-être aussi qu'elle saisit l'occasion, se dit, tiens, j'ai un prophète. Peut-être que ce prophète, qui est un peu mon coach personnel là pendant quelques minutes sur le bord du puits, je vais peut-être en profiter pour lui poser une question qui me taraude depuis des années. Voilà. Et donc elle lui pose cette question et on va lire le texte donc à partir du verset 19. Ben, je vais lire sur nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc là, on est à Sichem, d'accord? On est au pied du mont Garizim. Le mont Garizim, c'est une montagne un peu sacrée sur laquelle Moïse avait prononcé des bénédictions. Et donc, là, au bord du puits à Sichar, eh bien, on voit cette montagne, ce mont Garizim, et probablement la Samaritaine est en train de montrer ce mont Garizim sur lequel les Samaritains avaient bâti un hôtel. Vous savez que les Samaritains se sont séparés du peuple juif, donc ils n'avaient plus accès à Jérusalem, il fallait qu'ils aient un autre lieu de culte pour adorer. Hein. Donc dans l'Ancien Testament, on adorait dans un lieu. On le verra tout à l'heure, là, maintenant, l'adoration n'est pas limitée. Et donc, elle pose cette question à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Donc, c'est une question légitime, c'est où le lieu d'adoration? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, donc Jésus prend cette occasion pour expliquer ce que sera la véritable adoration. Et il explique ça à une Samaritaine qui est dépourvue de tout préjugé religieux juif. Les juifs avaient tellement de préjugés religieux sur comment il fallait faire. Ils avaient des ordonnances, ils avaient la loi de Moïse, ils avaient rajouté 600 et quelques commandements. Ils étaient coincés dans un carcan religieux qui les empêchait d'accéder à Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, lorsqu'on veut être un véritable adorateur, lorsqu'on veut vraiment servir le Seigneur et lui rendre un culte, on est parfois coincé dans des préjugés. On pense que rendre un culte à Dieu, c'est le dimanche matin de 10h à 11h30, par exemple. Ça peut être un préjugé. Cette femme est à la dérive dans sa vie, on l'a vu, elle a été rejetée. Elle avait toutes les raisons de ne pas se soucier de Dieu. Et pourtant, dans son cœur, il y a une soif de quelque chose d'autre. Et là, Jésus va lui donner les clés d'une vie épanouie. Et je voudrais partager ces clés avec vous. Et la première des clés, c'est d'être un adorateur du Dieu vivant. C'est ça la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous voulez avoir une vie d'adorateur ce matin? Pas seulement le dimanche matin au culte, mais dans votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe là? On est en train de faire des effets d'écho. Un peu de l'arcère. Bon. Donc ce matin, c'est une bonne occasion pour s'entraîner à avoir une vraie vie d'adorateur du Dieu vivant. Donc Dieu va lui donner les clés d'un culte qui sera agréable à Dieu. Et les clés d'un culte qui est agréable à Dieu, c'est se centrer sur le Père. Jésus va parler du Père ici. Il va parler du mot adoration plusieurs fois. Et pour adorer Dieu de la bonne manière, il faut l'adorer à sa manière. C'est-à-dire se centrer sur lui, centrer sur Dieu. Pas se centrer sur l'homme. L'être humain, naturellement, est centré sur lui. C'est-à-dire qu'il va se dire, pour adorer Dieu, je dois faire ça. Tac, 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 tac. C'est comme ça que, au cours des siècles, les hommes ont inventé des liturgies, ils ont inventé des chants, ils ont inventé des tas de trucs, un espèce de cérémoniel. Et moi qui vous parle, j'ai été élevé pendant 26 ans dans la religion orthodoxe, et j'en connais un rayon sur le cérémoniel et le religieux et le tralala. Ça, c'est adorer de manière anthropocentrique. Anthropo, c'est l'homme. Centré sur l'homme, c'est-à-dire je veux me faire plaisir, je pense que Dieu, il est comme ça, et donc pour l'adorer, je l'adore à ma manière. Et d'ailleurs, je me fais une représentation, et je représente Dieu comme un vieillard. Voilà, ça c'est la peinture classique, Dieu est un vieillard, et donc je l'adore comme je veux. Et bien c'est pas ça la bonne manière d'adorer. Et Jésus est en train de corriger ça parce que la Samaritaine avait peut-être entendu parler qu'il fallait adorer sur le mont Garizim, à l'autel, il fallait faire ci, amener ça, etc. Et puis c'est vrai, il y avait un cérémonial aussi. Les Juifs, ils avaient une certaine manière de s'approcher. Hein, ça c'était la loi de Moïse, c'est Dieu lui-même qui l'avait donnée. Mais la Bible nous dit que la loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et donc Jésus vient et il est l'incarnation de la loi. Il est la loi, il est la vérité. C'est ça le culte qui est agréable à Dieu. C'est un culte qui est centré sur le Dieu vivant. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. C'est ça la clé. La clé, c'est d'abord se poser la question, qui est-ce qu'on va adorer ? Et ça, c'est une question vraiment délicate qu'il faut se poser, parce que l'être humain, il a été créé pour adorer. Il a été créé pour être soumis à quelqu'un, à quelque chose. Donc, si on n'est pas soumis à Dieu, au Dieu vivant, on est soumis à autre chose, on adore autre chose, on rend un culte à autre chose. Il n'y a qu'à voir l'histoire du peuple juif, dès qu'il se détournait du Dieu vivant, eh bien il se mettait à adorer des idoles, d'autres dieux, polythéisme, qui a pour nom aujourd'hui loisirs, culte du corps, vacances, smartphone, ordinateur, film, tout ce qu'on veut. Ça c'est les dieux modernes, il n'y a plus de statues. On se dit, mais ils sont stupides. Enfin, ces vieux, là, ils se prosternaient devant des bouts de bois et des statues. Nous, on est bien plus futés que ça. On se prosterne. On ne sculpte plus une statue maintenant. En fait, si. C'est plus des statues, ça a d'autres formes. Donc, la question à se poser, c'est qui est-ce que je vais adorer? Et ensuite, la question à se poser, c'est où est-ce que je vais adorer? Ça, c'est la question de la Samaritaine. C'est où qu'il faut adorer Jésus? J'en profite, t'es là, t'es prophète. Est-ce qu'il faut adorer sur le mont Garizim ou est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem? Et Jésus va répondre à cette question. Et puis ensuite, comment adorer? C'est ça finalement ces trois questions clés. Qui est-ce qu'on va adorer? Où est-ce qu'on va adorer? Et comment on va adorer? Donc ces questions clés, qui, où et comment, c'est des questions qu'il va falloir répondre. Et notamment le qui. Parce que si on ne rend pas un culte à Dieu dans notre quotidien, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. N'oubliez pas que l'être humain est programmé, il a été créé par Dieu pour adorer, pour servir quelqu'un. Josué le disait au peuple d'Israël, il disait « Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui il faut servir. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. On ne peut pas dire « Je ne sers personne ». On ne peut pas dire « Il n'y a ni Dieu ni maître hein. ». C'était le slogan de mai 68, « Ni Dieu ni maître ». Ce n'est pas vrai. On a toujours un maître. Donc, adorer qui, adorer où et adorer comment. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est quoi les vrais adorateurs? Jésus va parler de vrais adorateurs. Et pourquoi est-ce que Jésus parle de vrais adorateurs? Parce que Jésus représente la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vérité. C'est-à-dire que Jésus, par sa vie, par son incarnation, il a représenté la vérité de réalité qui était partielle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand Jésus, par exemple, parle du sabbat, Jésus va parler du sabbat dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 2. C'est au chapitre 5, pardon. Quand il va guérir l'aveugle du Bethesda, les Juifs lui tombent dessus en disant « Tu guéris un homme le jour de sabbat, tu n'as pas le droit ». Jésus va leur montrer que c'est lui le vrai sabbat. C'est-à-dire que le sabbat a été fait par Dieu pour une réalité spirituelle incarnée en Jésus. Jésus est le sabbat, il est le vrai repos. Lisez l'Épître aux Hébreux. Dieu donne un autre jour de repos, qui est le sabbat, c'est Jésus. Donc Jésus est le vrai sabbat. Il y a plein d'autres exemples. Jésus est la véritable lumière. Les Juifs connaissaient la lumière. Il y avait la nuée qui guidait le peuple. Jésus incarne cette nuée, il est la vraie lumière. Jésus est la véritable évangélisation. C'est lui qui montre ce qu'est la véritable évangélisation, parce que l'évangélisation, c'est l'annoncer lui. Les Juifs connaissaient la manne, Jean chapitre 6, il lui montre « Je suis le pain de vie, je suis le vrai pain, moi je suis le vrai pain ». Il montre aussi le véritable Père. D'accord ? Lorsqu'il dialogue avec les Juifs au chapitre 7 de Jean, il montre que les Juifs ont pour père le diable et que le véritable père, c'est son père. Il est le vrai cep. Il est le vrai Dieu, toi le seul vrai Dieu que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale. Il est le vrai témoin. Le vrai témoin, c'est Jean l'évangéliste qui est le vrai témoin. Donc, et il y a plein d'autres exemples. Il est le rocher, il est le vrai temple. Jean chapitre 2. Détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en 3 jours. Il y avait un temple, le temple était un symbole des choses à venir. Le vrai temple, c'est Jésus. Et Jésus habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, la notion de vrai, c'est la vérité. C'est pour ça que Jésus va dire « Adorez le Père en esprit et en vérité ». Par la vérité qui est dans la parole. C'est ça les vrais adorateurs. Il y avait plein d'adorateurs qui adoraient sur le mont Garizim, à Jérusalem, partout, sur les hauts lieux, mais les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Troisième enseignement, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Il a été créé comme ça, il a été programmé pour être un adorateur. Donc on adore soit le vrai Dieu, soit on va adorer autre chose. Si activement je ne vais pas adorer Dieu dans ma vie quotidienne, alors je vais adorer une autre activité, je vais adorer mon travail, je vais adorer je ne sais quoi, mon entreprise, je vais adorer ma maison, je vais adorer mon jardin, je vais consacrer tout ce temps à une activité qui ne va pas me nourrir, alors que la seule activité qui nourrit, c'est celle-là. Donc cette notion d'adoration, on va adorer de toute façon quelque chose. À nous de choisir qui on va adorer. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Vous voyez, les gens qui promettent la liberté en disant « Ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux », eh bien, c'est une fausse liberté parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Hein, ou la traduction dit « ce qui a dominé sur nous ». Mais Pierre dit « Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé sur nous ». Donc est-ce que c'est Dieu qui a triomphé sur nous? Et à ce moment-là, je deviens un serviteur, un adorateur du Dieu vivant. Je passe du temps avec lui, je suis concentré sur le Père. Je comprends dans la parole tous ses bienfaits. Ou bien est-ce que je suis esclave de quelque chose d'autre ? Réfléchissez un peu. Est-ce que j'ai un esclavage dans ma vie ? Est-ce que j'ai quelque chose qui me tient aujourd'hui ? Une drogue, une activité, une personne ? Si c'est ça, je peux pas adorer Dieu. Alors oui, je vais venir au culte dimanche matin. Je vais arborer un joli sourire. Je vais être avec tout le monde. On va chanter des chants, on va se faire du bien. Mais en fait, je ne suis pas un adorateur. Je suis un adorateur de façade parce que quelque chose a triomphé de moi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut vous libérer de ça. Jésus peut briser ce lien, cet esclavage, comme il a brisé l'esclavage du peuple juif. La libération d'Égypte est un symbole de ce que Dieu peut nous libérer. Et Honoré le sait, ça, parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, Dieu a brisé les chaînes de ce qui le rendait esclave. Il a rendu témoignage de ça. Et je suis sûr que plein d'entre vous peuvent rendre témoignage. Voilà, si vraiment vous avez à cœur ce matin de tout à l'heure, on aura encore un petit moment de louange libre. Et même s'il y a du silence, si dans le fond de votre cœur, vous avez envie de confesser quelque chose, de demander à Dieu de briser cet esclavage qui vous tient, qui vous empêche de l'adorer, vous pouvez lui demander, parce que Dieu est bon. Le quatrième point que je voulais souligner, c'est que l'adoration, c'est une rencontre et un focus. C'est une rencontre avec une personne et un focus sur le Père. C'est pour ça que je vous ai demandé ce matin de vous concentrer sur un bienfait, parce qu'en vous concentrant sur un bienfait, vous vous concentrez sur le donateur. Vous comprenez que ça ne vous est pas arrivé par hasard. L'argent de Sabri pour Gérard n'est pas tombé du ciel comme ça. C'est le Père est à l'origine de ça. Ce que a partagé Delita, c'est la même chose. Ce qu'a partagé Honoré, il avait prié pour une femme et Dieu lui a envoyé une épouse. Et Dieu, il aurait pu lui envoyer une épouse qui habite à côté. Mais il lui a envoyé une épouse au Cameroun et dans une difficulté énorme parce que conflit entre deux tribus, enfin entre deux parties du pays, des trucs complètement impossibles et Dieu rassemble tout ça. Donc le focus sur le Père, c'est pour ça que ce focus, cette concentration sur le Père, ça peut être du collectif ce matin. Je vous encourage à vous centrer sur le Père, mais aussi dans votre quotidien à vous. Cette semaine, ce soir, demain, mercredi, concentrez-vous sur le Père. Prenez l'habitude ici, parce que vous vous concentrez sur Dieu le Père, sur ses bienfaits. Ce vécu d'un culte collectif peut nous encourager à expérimenter quelque chose personnellement et maintenir un culte individuel. C'est pour ça que Dieu a voulu que ses enfants se rassemblent collectivement, parce qu'on s'encourage, on se fait du bien. Peut-être que tout à l'heure, vous avez eu du mal à vous concentrer sur un bienfait. Et le fait que d'autres personnes aient osé ouvrir la bouche, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, finalement, il l'a dit, et si je réfléchis bien, si je suis honnête avec moi-même, Dieu m'a aidé, lui aussi il m'a fait un bienfait. » C'est pour ça que venir au culte le matin, le dimanche matin, ne doit pas être une fin en soi. « Ah, j'ai fait ma bonne action de la semaine, super, j'ai fait mon acte religieux. » Non, ça c'est... Beaucoup de gens font ça. Dans Lyon, beaucoup de gens font ça. Mais en fait, venir au culte, ce n'est pas une bonne action. Ce n'est pas se mériter les grâces de Dieu. Mais venir au culte, c'est un lieu d'apprentissage de ce que peut être une vie d'adorateur en semaine. Que ça soit une vie personnelle ou une vie en famille. Parce qu'il est de notre responsabilité d'entretenir un culte de famille, de montrer que notre maison est une maison où on adore le Seigneur, où on met le Seigneur à la première place, où le Seigneur compte, où on parle du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, quand vous allez chez les uns et chez les autres, et que vous invitez des frères et sœurs, est-ce que vous parlez du Seigneur, d'une manière ou d'une autre ? Il ne s'agit pas de réciter des chapelets, c'est pas ça, mais est-ce que vous mentionnez le Seigneur ? Est-ce que vous mentionnez la main de Dieu dans votre vie ? Est-ce que vous citez des versets ? Est-ce que vous ouvrez la parole ? Moi, je sais que souvent, nous allons dans une maison et on ne parle pas du Seigneur. Pourtant, la maison est chrétienne, mais on ne parle pas du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement en parler, mais voilà, quelle est la priorité ? Jésus, lui, a vécu une vie d'adorateur sur cette terre. Pas seulement d'une manière mystique, mais il a été en permanence en relation avec le Père. Tout le temps, il était avec le Père. Je ne sais pas combien de fois le mot Père est mentionné dans le Nouveau Testament, mais peut-être 300 ou 400 fois. Jésus savait se réjouir lors de fêtes. Il savait rire. Probablement, lorsqu'il exerçait son métier de charpentier, il savait se réjouir. Il était en relation avec le Père, puisque dès l'âge de 12 ans, il était au temple déjà, et il s'occupait des affaires de son Père. Donc, pendant toutes ces années de formation, il était en relation avec le Père. Je vous parlerai dans 15 jours, parce que j'animerai un deuxième culte où on continuera ce sujet-là. On verra que le travail, je vous dirais que le travail est une façon de rendre un culte au Seigneur. Le travail est une façon de rendre un culte au Seigneur. Je vous donnerai les textes dans l'Ancien Testament. Le mot hébreu qui est utilisé pour rendre un culte, c'est le même mot que travail. Dans la Genèse, lorsque Dieu nomme Adam, demande à Adam de cultiver et de garder le jardin, il lui donne un travail. C'est le même mot hébreu qui est utilisé lorsque Dieu dit à Moïse, vous irez faire 3 jours de marche pour me servir dans le désert. Donc le travail est une façon de rendre un culte au Seigneur. C'est pour ça que ceux qui divisent l'activité religieuse et l'activité séculaire sont dans le faux. Il y a des gens certes à plein temps et des gens pas à plein temps, mais les gens qui travaillent, qui rendent un culte à Dieu, parce que travailler, c'est rendre un culte à Dieu. Tout dépend avec quelle motivation je fais mon travail. Tout dépend de la motivation. Donc rendre un culte, c'est avoir une vie centrée sur le Père. Et j'aimerais partager ce verset de l'Épître aux Philippiens qui nous dit que finalement, l'adoration, c'est une rencontre, c'est un focus sur Dieu. Que tout ce qui est vrai, juste, honorable, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si nos pensées sont centrées sur ce que dit Paul aux Philippiens, alors on peut rencontrer le Père et rendre un vrai culte à Dieu. Et pour rendre un culte à Dieu, eh bien, c'est simple, c'est la parole. Encore une fois, Jésus dit à la Samaritaine, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, on le verra tout à l'heure, et en vérité. En vérité, on a dit la vérité, c'est Jésus, c'est la parole. Donc c'est la parole qui nous permet de nous centrer sur Jésus. C'est la parole qui nous permet de nous centrer sur le Père. Je vous ai mis un exemple, psaume 86, 15. Quand, dans mon culte personnel, je lis le psaume 86, 15, je me dis, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quand vous vous centrez sur la parole dans votre culte personnel, mais toi Seigneur, le « mais » c'est par opposition à tous les idoles et les faux dieux. Donc, je me centre sur le Père, mais toi Seigneur, je reconnais, c'est Adonai dans le texte original, Adonai, toi tu es un Dieu miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Ça veut dire quoi miséricordieux ? Miséricordieux, c'est qu'il ne nous accorde pas ce que nous méritons. Nous méritons la condamnation et Dieu enlève tout ça. La miséricorde, c'est ça. C'est ne pas donner ce qu'on mérite. Ne pas punir pour ce qu'on mérite. Compatissant, la compassion, c'est quelqu'un qui est capable, compateo, quelqu'un qui est capable de porter nos douleurs. Ésaïe 53, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu est lent à la colère. Quand on est en relation les uns avec les autres, combien est-ce qu'on est rapide à se mettre en colère ? Combien moi je suis rapide à me mettre en colère ? Dieu, il est lent à la colère. Dieu est riche en bonté, c'est ce qu'on a vu ce matin. Les bienfaits de Dieu, si je compte tous les bienfaits, Gérard l'a dit, ils sont innombrables. Dieu est riche en bonté, la richesse c'est l'abondance. Dieu est riche en fidélité, il est fidèle, il intervient toujours au bon moment. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Donc quand je lis ce petit verset de psaume 86, 15, je me concentre sur le Père et je réalise à quel point les qualités de Dieu sont énormes. Et là, je suis poussé à l'adoration. Seigneur, merci. Merci parce que c'est une petite partie, ce verset est une petite partie de l'immensité de ta richesse et de toutes tes facettes. C'est ça, une vie qui est centrée sur le Père. Une vie qui est centrée sur le Père. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un petit moment, j'aimerais qu'on passe un petit moment par rapport à ce verset, juste si vous avez envie maintenant de déverser quelque chose de votre cœur, que ça soit en silence, que ça soit en commun, que vous puissiez déverser, dire tout ce que vous pensez du Père, dire tout le bien que vous pensez de Dieu, tout ce qu'il a fait pour vous, tout ce qu'il est pour vous, ben dites-lui, c'est ça juste rendre un culte à Dieu. On va passer 5 minutes dans l'adoration. Je vais terminer rapidement cet enseignement, mais on y reviendra. Donc l'adoration, c'est un focus sur le Père. On l'a déjà vu, c'est la parole et l'Esprit de Christ qui va nous guider dans l'adoration. On ne peut pas adorer comme ça. C'est la parole qui nous pousse, qui nous montre les caractéristiques de Dieu et qui nous amène à nous concentrer. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Hein, faites en tout temps par l'Esprit, disait l'apôtre Paul. Nous avons un accès libre auprès du Père. C'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas comment adorer. Nous pouvons demander au Saint-Esprit, nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, je te consacre 10 minutes ce matin. Je veux rester en silence devant toi, dans la solitude de ma chambre. Et j'aimerais que tu m'aides par le Saint-Esprit à te louer. Je ne sais pas faire, Seigneur, je ne l'ai jamais fait, mais je veux que tu m'aides. Et Dieu va répondre à cette prière. C'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, vous avez beaucoup, beaucoup de textes. C'est pour ça que la lecture de la parole pousse à l'adoration, pousse à rendre un culte à Dieu, parce que vous avez beaucoup de textes qui nous rappellent tout ce que Dieu a fait pour nous. L'agneau est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse. Vous connaissez ce texte de l'Apocalypse. Et enfin, le dernier enseignement de Jésus, c'est que Dieu est esprit. Je vous ai dit tout à l'heure ces 3 questions. Adorer qui, adorer où et adorer comment. Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas une représentation d'un vieillard, il n'est pas une statue. Dieu, il est intemporel, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc Dieu est esprit et Jésus est en train de donner une vérité sur laquelle on reviendra, c'est que l'adoration de Dieu est toute simple. C'est les hommes qui ont compliqué l'adoration en créant des liturgies, en créant des cérémoniels, en créant un mysticisme qui est inutile, parce que Jésus nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et vous voyez, Ésaïe pose cette question, à qui est-ce qu'on pourrait comparer Dieu? Quelle image vous ferez? Et la réponse, bien sûr, est aucune. Puisque Dieu est esprit, on peut l'approcher tout simplement en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus dit. Par le Saint-Esprit, nous pouvons louer Dieu en vérité. Avec la vérité de la parole qu'est Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu et louer Dieu. Et voilà un magnifique exemple de ce que Jésus faisait lorsqu'il rendait un culte au Père. Il est rempli de joie et à un moment donné, il s'écrie, ça sort de lui, il s'écrie « Je te suis reconnaissant ». Parce que toutes ces choses compliquées que ces pharisiens, que les hommes, que les liturgies ont voulu créer pour nous approcher de Dieu, tout cela, c'est inutile. On s'approche du Père tout simplement avec ces choses révélées aux enfants. Ces choses révélées aux enfants. À un moment donné, Jésus est dans le temple et les enfants se mettent à crier. Et les pharisiens disent, mais fais-les taire. Et Jésus dit, non, c'est de la bouche des enfants que j'ai tiré la louange. Les enfants sont tellement spontanés par la joie du Saint-Esprit. Eux, ils peuvent s'approcher du Père. Alors si vous voulez être des adorateurs cette semaine, je vous encourage vraiment à essayer, à prendre ce temps pour Dieu, à lire la parole, à vous tenir dans sa présence et faire simplement, de dire simplement à Dieu tout ce qu'il a fait pour vous, qui il est pour vous. Tout simplement, c'est rien de plus compliqué parce que Dieu est esprit, dit Jésus, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça la clé finalement de l'adoration, en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur donne ce modèle qui commence par une louange au Père, notre Père, tu as un nom saint, ton règne va venir bientôt, ta volonté doit s'établir dans ma vie, etc. On reviendra là-dessus. Rendez-vous dans 15 jours pour un culte combiné. Hein, la semaine prochaine, c'est peut-être François, je crois, qui présidera ce culte. Voilà. Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine, et que Dieu vous garde, vous bénisse dans cette journée et dans le reste de la semaine.